Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Pour commenter cette actualité, je suis, comme d'habitude, en compagnie de Jean-François Mignard, la Ligue des droits de l'homme, de Pierre Larouille, économiste et essayiste. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques sujets qui ont été dans l'actualité, même en première ligne. C'est toujours compliqué de démarrer, je vois. Nous allons commencer par la visite du président Macron, visite aux États-Unis. Il en a fait d'autres et actuellement, il est, je crois, en Australie, où il a montré qu'il dérapait un peu sur sa langue, mais ce n'est pas moi qui critiquerai son anglais, donc je ne me permettrai pas. Nous allons commencer par cette visite donc, d'État du président Macron aux États-Unis, donc il s'est rendu en visite. Chez M. Trump, une visite parfaitement réussie, à ceci près qu'elle n'a abouti à strictement rien. Le paradoxe des relations franco-états-uniennes étant bien que malgré les apparentes relations cordiales entre les deux dirigeants, ceux-ci ne se sont d'accord sur absolument rien. Alors on a beau sourire béatement en permanence, s'embrasser, se tripoter ostensiblement jusqu'en devenir ridicule, il n'en reste pas moins que tout oppose les deux pays sur les questions fondamentales actuelles telles que l'accord sur le nucléaire iranien, le retrait ou pas de Syrie, l'accord de Paris sur le climat, le multilatéralisme, les relations commerciales et notamment les fameuses taxes sur les importations d'aluminium et d'acier, et j'en passe. Macron a bien plaidé et dit et redit dans différentes enceintes et devant la presse quelle était notre position sur tous ces sujets. A priori, rien n'indique qu'elle ait influé en quoi que ce soit sur les positions du président Trump. Mais le président Macron a eu au moins le mérite d'essayer de ne pas braquer celui-ci, mais d'établir les conditions de ce qu'il est tout de même difficile d'appeler un dialogue. Notons au passage que le président Macron a beaucoup parlé de la France, et bien sûr au nom de celle-ci, mais jamais de l'Europe. Sur cette question, qui veut démarrer ? Pierre Larouille a bougé le premier. Mais...
Oui, il ne faut pas bouger, c'est vrai.
Voilà, donc le premier qui bouge est désigné.
Ouais, ça me rappelle, quand on est une cible, il faut bouger, c'est bien connu. Je ne sais pas, il y a visiblement, les visites des présidents français aux États-Unis depuis quelque temps sont sous le sceau du cinéma. On se souvient de Sarkozy avec un très bon film, où est passé Cécilia. Notre président normal s'est traduit par « il est boudé par la critique ». Et puis, là, on a fait dans la novation, visiblement, on s'est plus adressé au cinéma italien, et je sais, Jacques Lavergne, tout l'amour que vous portez à ce cinéma. Mais c'est vrai que quand je regardais ces images, je me demandais si on n'était pas très proche de Fellini ou de la Commedia dell'arte.
L'accent est excellent, en tout cas.
Je ne parle pas italien,
c'est lui au passage. C'est davantage que celui du président, dans la langue de Shakespeare, visible.
Non, mais je ne sais pas si ça a fait cet effet, mais on était étonné qu'il n'y ait pas de maquillage. Hein, on aurait vu comme ça des grosses macs qui laissaient des traces sur les joues, un peu de plâtre sur les visages. Tout ça était en ces périodes d'anniversaire de 68, très aboutissement de la société du spectacle. Voilà, tout ça était très, très curieux, effectivement. Alors, en même temps, je crois que... C'est pas facile de discuter avec Trump, visiblement, il n'est pas essayé de le saisir.
Surtout qu'avec quelqu'un qui a 60 mots de vocabulaire, c'est un peu compliqué d'affiner le raisonnement.
Il ne faut pas rater le premier mot, les autres suivent. Je crois quand même que derrière tout ça, finalement, le président français a eu un mérite, c'est de dire de toute façon, comme je ne le ferai pas bouger sur l'Iran, peut-être que le plus simple, c'est que la France donne l'impression qu'elle peut avoir un rôle légitime qui est d'essayer d'agréger des choses dans un futur plan B ou pas. Parce que derrière, finalement, on se dit aussi, est-ce qu'il a été décidé aux États-Unis que le Yémen et la Syrie étaient sacrifiés sur l'autel de la lutte entre chiites et sunnites et qu'on les laissait se débrouiller entre eux, quitte à massacrer encore plus ces deux pays.
Plus les Kurdes.
Plus les Kurdes, voilà.
La race de campagne.
Voilà. Voilà, on ressort, je crois que c'est très complexe. En même temps, la diplomatie, moi, je suis pas dans les arcanes, donc je comprends pas tout. Mais je crois que malgré tout, et sans le défendre, dans cette pièce de théâtre un peu spectaculaire, ben finalement, il a sauvé ce qui pouvait être sauvé.
Oui. C'est un peu ce à quoi j'en étais arrivé aussi, mais Jean-François Mignard va nous donner son analyse du voyage.
Je vais rester, je crains, dans la couleur initiale. Bon, on a eu d'abord remarqué que c'est une visite d'État. C'est la première visite d'État quand même que fait le président de la République. Les autres étaient des visites officielles, donc la visite d'État, c'est une visite avec un certain protocole, avec du rituel et tout ça.
C'est là où on plante le chêne.
Voilà, c'est là où on plante le chêne au milieu des glands. Et ce qui montre bien l'écart qu'il peut y avoir entre, comment dire, le protocole un petit peu désuet des relations internationales, l'écart qu'il peut y avoir entre l'importance supposée d'un moment comme ça, effectivement, une bonne partie de pantalonnade auquel il a donné lieu. Alors, on a eu droit à un exercice de en même temps. On a eu un président Macron qui était cul et chemise avec le président des États-Unis, a annoncé avec fort commentaire dans la presse américaine notamment, interview à Fox News quand même, dans la série concession à ce qu'ils ont fait de plus à la droite aux États-Unis, c'était pas mal. Donc on a eu cette espèce de... Bon, voilà, les pellicules sur les épaules, etc., et le chêne et tout ça, bon, voilà, c'est là. Il n'y a que les gens qui sont peut-être, hélas, nombreux, qui veulent s'y laisser prendre, qui auront l'impression qu'il y a vraiment là eu un contact franc et cordial entre des grands dirigeants du monde qui vont régler la géopolitique. Et puis, on a eu le discours devant les représentants, et là on a eu le en même temps, c'est-à-dire il y avait le Macron très proche de Donald, dont moi j'ai lu un peu quand j'ai préparé un peu l'émission, parce que je suis sérieux.
C'est bien.
Voilà.
L'édito était moins dense que d'habitude.
C'est pour ça, je sentais que l'édito allait être un peu court, donc je me suis dit, je vais essayer de compenser les excellents éditos.
Je laisse un peu plus d'espace.
Et on avait un discours qui était un discours très... c'est aussi une opération de communication à l'interne. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas plus ça que quelque chose de l'ordre international. Je suis très proche de Donald parce que Donald est quelqu'un qui quand même est en rupture avec les vieilles traditions. C'est quelqu'un qui... Puis je suis un entrepreneur, je suis un premier de cordée moi aussi. Voilà, et puis on a eu le discours qui est le discours du... Macron, président de la République française, un tantinet européen, mais pas trop parce qu'on ne laisse pas trop la couleur. Et ça, c'est le discours qui est le discours devant le... Voilà. Je fais le job et je suis en rupture et tout ça. À la sortie, effectivement, alors rien. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit rien. Enfin, rien de ce, au-delà. Rien en rapport avec la gesticulation médiatique. Des choses inquiétantes, quand même, du côté de l'Iran. Moi, je ne suis pas très... Au-delà de la mousse, ce qui est en train de se profiler est quand même, de mon point de vue, inquiétant concernant, d'une part, l'Iran. Pour deux raisons, c'est inquiétant. Enfin, au moins pour deux raisons, de mon point de vue, concernant l'Iran. C'est inquiétant concernant l'Iran, surtout quand, dans la foulée, on voit Benyamin Netanyahou faire un grand numéro de Colin Powell à la petite semaine à sa propre télévision, en appui des positions... Là, on n'est plus dans la pantalonnade, je crois. Là, on est dans des choses qui sont des choses un petit peu sérieuses. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre local qui est en train, petit à petit... Et Dieu sait si cet endroit-là est un endroit qui est un endroit qui est une poudrière, qui est en train, comme ça, là, de bouger, pas de manière évidente. La deuxième raison qui me laisse un petit peu inquiet, c'est quand même... Ça n'est pas de très bon augure sur la capacité que peuvent avoir ce qu'on appelle les superpuissances à comprendre
le contexte qui est le contexte international et son évolution. Moi, j'ai souvent tendance à me référer à Bertrand Badie sur ces questions-là, hein, qui de dire, voilà, aujourd'hui, les choses sont infiniment plus complexes que les rapports de force qu'il peut y avoir de État-nation à État-nation. Le contexte est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a l'impression que les deux personnes qui nous ont fait ce grand numéro, c'est vrai, c'était un peu... Ça ressemblait au numéro clownesque, mais derrière, il y a des choses qui sont quand même un petit peu inquiétantes à travers cette visite-là et les suites qu'on commence à voir apparaître.
On peut quand même remarquer que Macron n'a pas manié la langue de bois autant devant les étudiants, devant les représentants du peuple. Il a quand même affiché ses positions qui vont bien sûr à l'encontre de ce que veut et pense Trump, si tant est qu'il pense, ce garçon.
En même temps,
il a dit les choses, il a même envoyé quelques piques à Trump, hein. Il ne s'est pas privé
bien
quand
sûr,
même. Hein.
Bien sûr,
ce côté-là, on peut dire qu'il a fait le job, comme disent les Américains, pour rester dans la tonalité.
Oui, il a fait le job, mais c'est son job, hein, effectivement. C'est l'image du jeune président. C'est le leadership européen qui... Alors, moi, j'ai envie de dire, se démarquer de Trump, excusez-moi, mais c'est pas le plus compliqué. Hein, avoir un discours qui est un discours qui fasse réellement rupture et qui organise les choses de manière à ce que la rupture se passe, bon, voilà. Peut-être que nous en sommes, ou que le président de la République française n'en est qu'à pouvoir... dire les choses sans pouvoir avoir un effet qui est un effet dessus. Mais ce moment-là, faut, à un moment donné ou à un autre, il faut le dire, il faut avoir des stratégies par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut se démarquer de Trump et on peut le faire de manière tranchée et tout, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, en même temps, tout le monde ne le fait que parler. Je crois qu'il y a une difficulté de saisie de ce monde multilatéral, justement. Parce qu'on est quand même, si j'ai bien compris, on n'est qu'au départ, parce qu'on va avoir là les visites avec Poutine et Erdogan, ce qui quand même vaut son pesant de cacahuètes. Alors, en même temps, il faut y aller dans ce multilatéralisme-là. Alors, est-ce que malgré tout, cette visite a commencé, en tout cas, à le positionner ? Parce que malgré tout, il se dégonfle pas. On peut pas aller...
Oui, c'est pas trop son style. Hein. Il va facilement au contact. Il affirme des positions très tranchées qui sont les siennes et qu'il assume. Ça, c'est respectable.
Oui.
Et je crois qu'effectivement, ces sujets sont moins de l'ordre de la parole que d'une sorte de fédération possible qui peut être, je dirais, quasi spontanée. Parce que je crois que dans l'ordre du langage, je vois pas du tout comment on peut régler les questions que l'on voit surgir, en tout cas à notre niveau. Ça va être assez compliqué.
D'où l'impression que je fais, je ne veux pas revenir sur l'écart qu'il peut y avoir entre une visite d'État dans laquelle on peut s'attendre à la sortie, à ce qui est, hein, et effectivement, à la fois... Un numéro de pantalonnade médiatique et du discours et de l'affirmation un petit peu forte, mais à la sortie des choses qui sont extrêmement inquiétantes, qui ne vont pas du tout dans le sens, qui est, de mon point de vue, le sens du discours. Voilà.
Alors Mme Merkel l'a suivi de près, on en a quasiment pas entendu parler, ce qui est surprenant. Enfin, j'imagine qu'on aurait été en Allemagne, on en a parlé. En France, on ne sait même pas ce qui s'est passé,
non,
quand elle est arrivée, quand elle est repartie.
C'est le leadership européen aujourd'hui. C'est ça qui nous est vendu. Hein,
il m'a semblé quand même que la division du travail entre Macron et Merkel, c'était la stratégie internationale pour Macron et les choses qui fâchent, et la négociation commerciale pour Merkel, parce qu'elle pèse un peu plus à cet endroit-là.
Elle pèse, mais ils étaient plus durablement et plus durement impactés que nous.
Exactement. Ouais.
Et on a gratté un mois. Bon, est-ce que c'est ce que ça veut dire, puisque la mesure qui devait s'appliquer début mai sera appliquée début juin, à moins qu'il y ait une nouvelle remise au goût du jour de cette disposition. Alors, Jean-François, là, vous parliez de l'Iran, effectivement, avec Netanyahou qui s'est engouffré dans une brèche, en produisant des documents qui, si l'on en croit les gazettes, datent des années 2000, et c'est ce pourquoi on avait fait pression, négocié et fait cet accord. Pourquoi Macron a dit on va revenir, on va refondre un peu cet accord ? Ça ne marchera jamais. Pourquoi les Iraniens l'accepteraient aujourd'hui ? Ils n'ont aucun intérêt à accepter de remettre sur le métier cet accord, d'autant plus que les sanctions n'ont pas vraiment été levées. et qu'économiquement, ils sont toujours un peu dans la panade. Ce qui a pour effet, d'ailleurs, de fragiliser le président Rouhani aujourd'hui, qui fait partie des modérés. Et donc, si on dénonce cet accord, eh bien, c'est faire le boulevard des durs. Donc, où est la logique là-dedans ? L'amour n'est pas radiophonique, je vous le dis à tous les deux.
Ou l'amour, je croyais l'amour.
Non, non, l'amour, oui, mais oui, l'amour non plus.
Non, mais je sais pas, il y a... C'est l'impression, moi je ne suis pas spécialiste géopolitique, mais l'impression que ça donne quand même, c'est que ça patine un petit peu dans le vide, dans un registre qui est un registre de remise sous le couvert de stratégies qui sont des stratégies à l'ancienne. Le bâton américain, tout ça mordillé au talon par Israël qui va taper sur le grand méchant qui, en l'occurrence, c'est l'Iran. Donc, par ailleurs, je vais dire une énormité, on peut se poser la question de savoir en quoi l'interdiction d'avoir un armement nucléaire est légitime au regard de ce qui peut se passer dans la région et des puissances nucléarisées qui peuvent exister. Je veux dire, encore cette histoire-là...
C'est légitime, non, mais logique peut-être en disant on ne va pas en rajouter un, d'autres au surplus, on maîtrise mal les réactions.
Je ne suis pas sûr que ce serait surtout pas du côté des réactions de l'Iran.
Oui.
Oui, ben alors excusez-moi, mais dans ce pays-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait des pays qui soient tellement responsables et qui soient complètement désarmés à l'arme nucléaire. Quoi. Je veux dire, c'est plutôt du côté de la raison des gens qui l'ont. Je ne sais pas, enfin oui...
À l'époque, on l'avait accepté du Pakistan et de l'Inde, qui nous avaient un peu mis dans le fait accompli, mais qui n'étaient pas signataires du traité de non-prolifération, donc c'était plus facile à admettre peut-être. Mais c'est vrai que l'Iran, dans la région aujourd'hui, a une stratégie expansionniste et dominatrice bien affichée. On peut comprendre qu'elle inquiète aussi. Si en plus, il se dote d'un armement nucléaire, là, tout est possible.
Oui, mais tout est possible de la part de pas mal de gens localement. Et voilà, c'est...
Dans ces cas-là, j'en profite quand même pour redire que ça vaut le coup d'aller fouiller un tout petit peu sur Internet et d'aller chercher le remarquable film de France 2 sur le dossier Eurodif. Parce qu'on n'a toujours pas compris où nous en étions de cet accord international avec l'Iran qui nous a valu le plastiquage de Tati à une époque, etc., les attentats iraniens en France, parce que nous ne respections pas nos accords. Et depuis, je ne sais pas où on en est de ce respect, mais en tout cas, c'est pas très net. Et le sujet vaut la peine, parce que pour le coup, là, il reste totalement d'actualité pour savoir où en est l'Iran. Deuxièmement, Jacques a raison, évidemment, on se demande, on parle de l'Iran, mais il me semble quand même que dans le jeu, il y a un certain nombre d'acteurs qui deviennent aussi plus prégnants. Enfin, quel rôle les Américains vont faire jouer à l'Arabie Saoudite et qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Voilà, c'est pour ça qu'on revient à cette notion du sacrifice du Yémen ou de la Syrie ou pas. C'est est-ce qu'on essaie de construire un nouvel équilibre, si tant est qu'on y arrive, ou est-ce qu'on a décidé de le construire sur des cendres et sur des sacrifices?
Et qu'est-ce que fera Poutine? Parce que finalement, il est allé se mettre dans un guépier dont il a certainement envie de sortir aujourd'hui, enfin, je ne suis pas dans sa tête, mais bon, il a réaffirmé par ce vecteur-là, il a réaffirmé la position de grande nation de la Russie. Ça lui a servi à faire de la com, à quel prix, mais ça lui a servi. Et maintenant, il va bien falloir qu'il en sorte. Il ne va pas rester là, au milieu. Qu'est-ce qui va se passer si la Russie sort du champ?
Il y a un moment de bataille. C'est pour ça que je posais la question de la solution par la destruction ou la solution par la reconstruction. Parce que dans un cas, c'est cynique et on voit vers quoi ça va. Et dans l'autre cas, c'est du business et on sait aussi vers quoi ça va. Et là, tout le monde quand même va venir dans le pot de confiture, parce que la reconstruction de la Syrie, c'est quand même pas anecdotique, c'est 180 milliards. Donc il y a des enjeux pour Poutine comme pour les autres. Et de ce point de vue, je le redis, je pense que le président Macron a entre les mains un joker, parce que la diaspora syrienne dans le monde n'est quand même pas très pauvre. Et avec les effets leviers internationaux, il y a quand même beaucoup d'argent potentiel. Si tant est que quelqu'un a envie de reconstruire ce pays.
Ah, l'argent et le marché. Bon, l'heure est un peu encore jeune pour évoquer un « ça va mieux », mais il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit, c'est quand même la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud, on était à l'acmé de la crise, on allait s'envoyer des bombes, et puis là, c'est on joue, embrassons-nous, Folleville. Donc, quelque part, c'est un peu ce que disait peut-être Jean-François d'une autre façon tout à l'heure, mais il faut toujours espérer, parce que même avec un armement nucléaire et même avec un dirigeant que l'on pouvait penser extrémiste, voire légèrement dérangé, finalement, aujourd'hui, on est peut-être, hein, il faut être très prudent, mais dans la voie d'un accord.
Ce qui prouve que le café-théâtre accouche parfois de bonnes surprises.
Oui.
Et que la Chine sait travailler aussi dans l'arrière-boutique.
Voilà, je pense que la Chine a beaucoup certainement pesé là-dessus. Il n'a pas trop le choix, le garçon. Hein. Ah, oui. Mais elle a un peu tardé pour s'y mettre. Elle a un peu tardé. Bien.
Le riz vapeur, c'est bon, mais il faut que la vapeur reste.
on a quand même l'impression qu'on est dans des stratégies et des temporalités. C'est un terme qui va sûrement utiliser en ce moment. Hein, de l'acte au dernier moment, quoi. Hein, on joue à se faire peur, et puis, alors qu'on était habitué à des négociations dans la longue durée, autour de tapis vert, avec des diplomates qui sont des diplomates raisonnables, là, on se fait balader un peu. Hein, on a l'impression de mouvements caractériels qui, tout d'un coup, viennent trancher des questions qui paraissaient insurmontables dans le cadre qui était le cadre traditionnel. Voilà.
Ça veut dire qu'il faut toujours espérer.
Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi faire évoluer dans la manière de réfléchir ces choses-là, parce qu'elles sont en train de se passer différemment de ce dont on avait l'habitude. Après, qu'il faille toujours espérer, bien entendu.
L'optimisme
de la volonté.
On est optimiste aujourd'hui. L'optimisme de la volonté. Bien, je vous propose de passer à un deuxième sujet qui, lui, en fait, tout nous touche de près dans ce monde, hein, mais celui-là encore plus, qui est très franco-français, c'est la loi Asile-Immigration, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture dans la nuit du 16 avril, après quand même 60 heures de débat, étalé sur 7 jours, adopté par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. Dans l'hémicycle, il y avait, on peut le dire malheureusement, beaucoup de députés absents dans le groupe LREM, c'est très difficile à dire. Voilà, des courageux députés, certainement, qui ont préféré fuir le vote plutôt que soit de l'assumer, soit de s'y opposer. Donc la République est peut-être en marche, mais certainement pas la démocratie. Une loi donc dont beaucoup se demandent pourquoi le gouvernement a voulu, à force forcée, faire passer ce texte. Interrogation aussi du Conseil d'État, qui est assez critique sur la manœuvre, sachant qu'il y avait déjà eu un texte adopté le 20 mars 2018, donc c'est quand même assez proche, qui a donc du coup été corrigé. Et puis on avait deux lois récentes sur le sujet en 2015 et 2016 sous la mandature précédente. Textes qui ne sont toujours pas appliqués aujourd'hui, ou pas en totalité, et qui surtout n'ont jamais été évalués. Donc on a fait une politique et on la change sans savoir si celle qui était en place fonctionnait. Donc un texte inutile et qui mécontente beaucoup de monde, on ne va pas dire tout le monde, mais quasiment, un texte dont on ne comprend pas bien qu'il a été fait pour complaire à une certaine opinion publique, mais c'est de la communication politique. Or, la loi n'est pas faite pour faire de la communication politique. Et alors, en marge de cette question, je voulais juste vous lire un article du Canard de la semaine dernière sous la signature de Dominique Simoneau. C'est assez bref, mais je le lis parce que ça m'a quand même fortement, comment dirais-je, gonflé, si je voulais être un tantinet vulgaire. Alors, je vous le interpellé, on va dire, oui, c'est plus politiquement correct, je vous le lis. Entrave à la circulation d'un aéronef, c'est le délit passible de 5 ans de prison pour lequel deux passagers d'Air France seront jugés début juin à Bobigny. Leur histoire commence le 31 décembre dernier. Manuel prend place avec sa compagne dans un avion en partance pour Dakar, au Sénégal, lorsqu'un policier en civil prévient les voyageurs que, on cite, le vol va servir à reconduire un dangereux criminel. La déclaration provoque quelques remous, le flic réagit, je peux vous comprendre, mais si vous interférez, je vous débarque. Quelques minutes plus tard, apparaît dans l'avion un personnage digne d'Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux, raconte Manuel, un être humain qui n'en a plus l'air, coiffé d'un casque de boxe, étouffé par un chiffon dans la bouche, pieds et mains liés, suffoquant comme un animal, il est traîné à son siège comme un trophée de chasse par plusieurs policiers armés. La scène est terrifiante, le rapatrié donne des coups de pied dans les sièges. Dans l'avion, les gens se lèvent, s'indignent, protestent. Si j'avais été, je le dis, j'aurais fait comme eux. Manuel s'accompagne à un autre passager, crie à l'inhumanité inacceptable. La riposte est rude, dit Manuel. Ma compagne est giflée et tombe en arrière, la tête en bas entre deux sièges. Elle s'évanouit. Je suis menotté si fort que mes poignets saignent, puis poussé hors de l'avion. Et hop, garde à vue en compagnie de l'autre protestataire, à Roissy d'abord, puis deux jours dans les geôles du tribunal de Bobigny, connus pour leur riant confort, crasseuse sans fenêtre ni ventilation. Manuel en sort hébété après trois jours sans sommeil. Son avocat Frédéric Tefour, qui on souhaite bon courage, rappellera ses joyeusetés en juin, non sans y adjoindre un argument commercial. Mes clients ont payé leur billet assez cher pour aspirer un voyage tranquille, ils n'ont pas eu droit et n'ont fait que crier leur indignation devant le spectacle que leur ont imposé Air France et les autorités. Pour la prochaine fois, conclut le canard, il y a de quoi demander au moins un surclassement. Donc voilà à quoi se livre la brillante police française, dont on connaît les dérapages, malheureusement. Alors je parle sous le contrôle de Jean-François Mignard, qui en est un spécialiste. Messieurs, c'est à vous. Qui veut commencer ? Jean-François.
Ce coup-ci, c'est moi qui démarre.
Oui.
Sur ce poil-là. Alors, c'est une loi franco-française, une affaire franco-française. Pas que, quand même. Tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte européen, international. C'est quand même quelque chose qui touche aux réfugiés, et c'est-à-dire à un phénomène qui est un phénomène qui va largement, par définition, largement au-delà de nos frontières. Là aussi, quand on regarde de près cette loi, on a du macronisme, c'est-à-dire du en même temps. Dans un rapport pâté de cheval et d'alouette, de l'alouette sur un certain nombre de mesures qui sont des mesures intéressantes d'ailleurs, mais qui sont à la marge ou résiduelles, et du percheron du côté effectivement de la répression, on va dire, en direction de personnes qui sont des personnes qu'on a tendance de plus en plus, et ce texte-là est un cran de plus dans toute la série de textes, le Conseil d'État, je vous conseille, pour les gens qui sont intéressés par ça, de lire le rapport du Conseil d'État sur le projet de loi. Il est accablant. J'ai rarement vu un truc comme ça, dans lequel, en gros, c'est ni fait ni à faire, et c'est quand même extrêmement dangereux ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Sur le site Ulugisti, vous avez un excellent dossier là-dessus qui fait le tour de l'ensemble des analyses.
Voilà. Rappelez le site, Jean-François.
Gisti, alors ça doit être gisti.org, www.gisti.org. Et là, vous avez donc quelque chose de logistique. C'est beaucoup de juristes qui travaillent de manière très, très dans le détail. Voilà. Donc, beaucoup des gens qu'on va de plus en plus traiter effectivement comme des délinquants, alors que ce sont des gens qui sont des gens, qui sont des gens comme vous et moi et qui ont eu le désavantage de naître dans un pays qui est un pays qu'ils ont été amenés à fuir, très peu d'ailleurs, très peu pour nous en France. Je vous rappelle que nous accueillons très très peu de réfugiés au regard de l'entre guillemets quota que s'est fixé l'Europe, malgré tout ce qu'on peut raconter. Voilà. Et ces gens-là vont être maltraités. Concrètement maltraités. Et quand je dis que ça se rapproche, alors si on rentre dans le détail, on va pouvoir les garder à vue, on va les retenir dans un commissariat pendant 48 heures. Toutes les mesures sont des mesures qui se rapprochent du traitement des délinquants ou de ce qu'on peut commencer à faire de pire dans l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, c'est pas rien. Voilà. Alors, je partage complètement l'idée que, au-delà du fait que tout ça est à analyser dans un contexte qui est un contexte aussi européen, puisque l'immigration, une partie se règle à l'échelle qui est l'échelle européenne, on a l'impression qu'on assiste à une série de signaux vers ce qu'on a de plus à droite à l'électorat, qui est l'électorat, qui est fasciné par une espèce de délire sur le fait que nous serions submergés par des réfugiés. Ça se borne à appliquer un certain nombre de textes, par ailleurs qui sont des textes aujourd'hui qui commencent à poser des questions. Hein. Quand on vient de Syrie, on peut être réfugié au titre de la Convention de Genève, mais est-ce qu'on n'est pas un réfugié et un émigrant économique aussi, parce qu'au-delà de la guerre, on n'arrive plus à bouffer dans des pays qui sont des pays dévastés. On a devant nous la question des réfugiés climatiques qui va commencer à se poser. Hein, voilà. Donc, on est tout ça. Et alors que, il faudrait, de manière politiquement responsable, si on ne raisonnait pas la petite semaine, en regardant ce que ça fait en termes de sondage, prendre cette question à bras le corps. Là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de courage du président de la République, devant des étudiants ou devant des élus qui sont des élus américains ou devant n'importe qui. J'aimerais bien un peu de courage politique du président de la République là-dessus pour dire, un, les étrangers ne sont pas forcément nos ennemis. Deux, ce qu'on est en train de vivre n'est pas du tout ce qu'on est en train de vous raconter. Et trois, on va traiter avec fraternité et avec un minimum de principes qui nous fondent ces gens-là dont, et ça demande du courage politique, on aura à traiter cette question-là de manière encore plus massive dans les années qui viennent, quand ce ne sera pas des choses qui nous concernent directement, y compris concernant la question qui est la question de l'immigration. Ce texte, bon, moi, je dis, c'est vrai, tout le monde, hein, le défenseur des droits, la CNDH, hein, la Commission nationale hein, consultative des droits de l'homme, il y a plein, les employés de l'OFPRA, hein, de l'Office français pour les réfugiés apatrides, qui disent un truc comme ça, non seulement maltraite les gens, mais n'est pas applicable. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire ce genre de choses-là. Alors, le côté, tout à l'heure, on dit qu'il faut être optimiste. Le côté positif qu'a eu cette affaire-là, c'est que ça a eu des effets qui sont des effets de mobilisation croissante de gens, de citoyennes et citoyens, individuellement et collectivement, qui ne se reconnaissent pas dans cette politique-là et qui se sont mobilisés et qui sont en train de faire apparaître, de donner une visibilité à des réactions qui sont des réactions qu'ont les gens qui sont contradictoires avec ce texte-là, dont on aurait pu attendre à la limite, qu'au moins il règle cette question-là, qui était la question des délinquants de la solidarité, c'est-à-dire en gros qui ne viennent pas pénaliser les gens qui sont les gens qui accueillent dignement les réfugiés et les immigrés. Quand on regarde les mesures qui ont été prises, en lâchant un petit peu de l'Est pour essayer d'emporter quelques voix d'une majorité qui, pour la première fois, s'est un peu fissurée quand même, hein, pas de manière très forte, mais qui s'est un peu fissurée. Bon, voilà, ça se mobilise un peu contre ce genre de choses-là. Moi, je suis entre guillemets horrifié par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce texte-là, qui est vraiment une atteinte aux libertés fondamentales et qui sape notre propre fondement à nous. Je suis terrifié par un pouvoir qui est un pouvoir qui est incapable de traiter cette question-là de manière un petit peu mature et de parler aux citoyennes et aux citoyens le langage qui est le langage de la vérité, hein, et qui flatte la bête dans le sens du poil. Hein, on voit comment ça ouvre la porte à tout ce que ça peut avoir de pire, hein, à la pègre, aux nouvelles milices, hein, aux petits-enfants de Darlan qui viennent chasser le migrant dans les Alpes. Voilà. Juste quelques éléments. C'est par ailleurs un texte qui est un texte très technique, hein, qui n'est pas autre chose que la modification d'un texte précédent. Donc, si vous voulez aller voir le texte, ça va être très très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les analyses du texte.
Pierre Larouille.
Oui, je peux être d'accord avec l'ami Mignard sur tout ça et avec Jacques Lavergne quand il dit c'est de la com. Le sujet qui est derrière le sujet, il est en fait, je pense même plus large que ça, il est que je crois qu'on ne mesure pas que nous sommes dans un contexte excessivement risqué et que les positions des enfants de Darlan, pour reprendre l'expression de Mignard, ne s'appliquent hélas pas que sur le sujet des migrants. Et je pense que le pouvoir en tient compte et a des informations assez,
assez précise là-dessus. Je crois malgré tout que on est sur une autoroute d'alliance qui prépare vraiment quelque chose d'excessivement autoritaire et réactionnaire sur l'ensemble des sujets. Et que finalement, on est projeté au travers de ce texte sur les choses dégueulasses habituelles, c'est qu'il est très difficile d'être fidèle au passé et aux valeurs quand on est angoissé par l'avenir. Et en fait, on est dans une société où chacun, malgré tout, compte un peu ses pions. Quand on est gestionnaire, eh bien, on se dit qu'il faut essayer de calmer l'angoisse, parce que sinon, ça peut accélérer ces processus de radicalisation autoritaire. Et de l'autre côté, on a tendance effectivement à faire que le sol se dérobe sous ceux qui tentent de gérer. C'est de bonne guerre. Je crois que aussi c'est le retour des démographes dans le débat politique. Et c'est surtout une énorme incapacité, pas seulement française, je crois, à poser ce problème et même esquisser un modèle. Effectivement, les migrations qu'on attend sont quand même un phénomène. C'est pour ça que, objectivement, quand on dit « mais enfin, c'est ridicule, la France peut accueillir 25 000 personnes », objectivement, c'est pas le sujet. Personne le conteste. Ça, c'est vraiment de la posture, pour le coup. Hein. Je crois que ce qu'on traite n'est pas un problème réel, mais c'est un problème d'appréhension, à tous les sens du terme. Et je crois que dans ce contexte, je crois que ce que tout ça révèle et que Mignard appelle un manque de courage politique, c'est une fragilité politique extrême et une situation, parce que il est curieux, même si on ne veut pas faire de lien, le débat qui va avoir lieu sur le plan Borloo, par exemple, va être très intéressant.
Si tant est qu'il ait lieu.
Oui, ça, si
c'est
tant est qu'il ait lieu.
Sûr qu'il ait lieu, oui, pour l'instant.
Il faudra qu'on en reparle d'ici.
Absolument. Mais peut-être pour deux raisons. La première, c'est comment on se saisit du plan Borloo lui-même. La seconde, c'est une analyse qui dit « Non, mais de toute façon, c'est déjà mort, ça. C'est même plus le sujet. » Et donc, je crois qu'en fait, le problème, il se situe plus dans les réactions qui sont passées à Nice ce week-end, le 1er mai avec Marine Le Pen, avec les propos de M. Ciotti, ceux de Wauquiez, qui intervient là, vous l'avez vu, sur les pédophiles. Enfin, on sent que la dérive est quand même excessivement proche. Et je crois, malgré tout, que certes, il faut du courage politique, mais la novlangue demeure parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de bases pour parler aujourd'hui.
Bon, François Mignard.
Oui, juste, moi, je pense que ce serait la conjonction du courage et de l'intelligence politique. La démocratie, à un moment donné, ça ne peut fonctionner qu'en faisant confiance aux citoyennes ou aux citoyens. C'est-à-dire à leur disant réellement les choses telles qu'elles sont. Sinon, c'est une drôle de société qui fonctionne. C'est pas que du courage, c'est aussi de l'intelligence politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce discours-là, à la sortie, ça ne fait qu'alimenter effectivement ce que ça peut avoir de pire, la trouille. Il va falloir l'affronter. Quoi. Ce qui me sidère, hein, y compris, mais cyniquement, ce que je ne comprends pas vraiment à un moment donné, c'est le raisonnement, hein, à quelle échéance fonctionnent effectivement les gens qui prennent une décision comme celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le rapport à 24 heures ou aux élections qui sont les élections suivantes, ou affronter collectivement, et ça va être compliqué, mais ça, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, il va falloir qu'on l'affronte ensemble, cette affaire-là. Moi, alors, ce qui me fait dire ça, c'est que moi, associativement, je rencontre tous les jours des gens qui ne sont pas sur ce modèle-là. Il y a des gens, et puis les gens qui accueillent des migrants, qui travaillent dans ce genre de truc-là, c'est pas la gauchiasse, comme on le dit, ou le bobo qui est le bobo, hein, qui etc., etc. C'est des gens qui sont des gens, c'est monsieur tout le monde, c'est les vrais gens, comme on disait à une époque à Canal+. Il y a les intellos et il y a aussi les gens dans les... Alors, ceux-là sont en capacité, effectivement, eux-mêmes de se mobiliser. Ils ne sont pas tous de gauche, entre guillemets, pour le dire comme ça. Moi, je vois des gens qui se mobilisent. Voilà. C'est là-dessus que ça va se jouer. Or, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est effectivement le message qui est le message le pire. C'est calamiteux, politiquement. C'est suicidaire, y compris.
Je veux dire, est-ce que c'est suicidaire vraiment politiquement ? Parce que le gouvernement n'a aucune stratégie, on le voit bien, ça c'est clair. Il a une stratégie, c'est peut-être sa réélection future. Parce que si on regarde ce qui s'est passé, Merkel en a accueilli beaucoup, on voit ce que ça lui a coûté. L'Italie en a accueilli beaucoup, et par force ils sont en première ligne, on voit ce que ça leur a coûté aussi aux élections. Peut-être que Macron se dit qu'il faut aller dans un sens qui favorisera sa réélection.
Oui, mais ce qui favorisera sa réélection, sur le modèle de ceux qui refusent d'en accueillir, et cela on les connaît, c'est Orban en Hongrie, c'est en Pologne, et tout comme ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut ?
Non, mais enfin, il ne faut pas... une simple remarque, les vrais gens, c'est pas Canal. Je suis pour quelque chose dans la réapparition du mot, donc rendons à César. Oui. Non, mais du coup, on évoquait le plan Borloo qui a rien à voir, apparemment. Évoquons la réforme constitutionnelle.
Oui.
On est en train en permanence de dire deux choses, et là, le en même temps fonctionne pas du tout. C'est que ce que dit Mignard, c'est en fait à quel moment le politique retrouve une voix. Et oui. De l'autre côté, on cède absolument à tout pour faire qu'il ne puisse plus en avoir. On enlève vraiment...
Il n'y a plus de voix aujourd'hui. On entend un président qui décide, le Parlement est aux ordres verrouillés par Ferrand. Ces politiques, ils sont jeunes, ils n'ont pas du tout de caractère, ils ont été élus dans des conditions que l'on sait, on ne va pas y revenir. Ils sont complètement verrouillés, ils ne sont même pas venus. Il y en a un seul qui a osé voter contre et qui s'est retiré. Il y en a qui se sont abstenus, la plupart, ils sont restés chez eux pour ne pas participer.
Je ne citerai pas, je serai charitable de non dans la Haute-Garonne. Mais...
Oh, ils sont barrus partout, donc on sait.
On ne sait pas le partement le pire, ça va bien
non,
dire le pire.
Alors, simplement parce que je suis allé regarder justement pour la Haute-Garonne. Et pour citer quelqu'un qui n'était pas là, par exemple Jean-François Portarieux,
oui.
Jean-François Portarieux avait trois semaines avant ou 15 jours avant dit qu'il ne serait pas là ce week-end-là, il était remplacé et il ne savait pas quel jour serait le vote. Donc c'est simplement, à un moment donné, il ne faut pas tout leur faire porter quand
S'il n'est pas capable de se faire voter par procuration, alors il faut qu'il demande à Monique Borel, elle va lui expliquer.
Ça peut se faire.
Il n'a pas voté. Hein. Moi, j'ai regardé les chiffres de l'Assemblée nationale. Il n'existe pas.
Ces gens ont parlé autrefois de Parlement Godillot. Ce Parlement Godillot était quand même un peu plus peut-être responsable que le nôtre aujourd'hui.
Ça, c'est de l'écume par rapport au fond.
Voilà, c'est de l'écume, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'opposition. Il décide comme il veut. Le Conseil d'État, il s'assoit dessus. Les corps intermédiaires, il s'en tape. Et il fait ce qu'il veut.
J'en profite sur ces sujets. Si nos auditeurs sont intéressés, il y a un débat vraiment extrêmement intéressant que l'on peut retrouver là aussi sur les... sur Internet, qui est un débat à l'école pratique des hautes études de psychopathologie entre Charles Mellement, directeur des enseignements de Lacan, et Dominique Régnier, qui par ailleurs, quand il n'est pas candidat dans la région, est un bon analyste de la situation politique européenne. Et c'est vraiment excessivement intéressant sur les tendances. Je crois que le texte s'appelle « L'inconscience et le politique ». Et sous ce terme, peut-être un peu barbare, ça vaut vraiment la peine d'aller voir effectivement le désarmement idéologique général et qui fait que retrouver la voie, oui, mais si on commence à dire c'est plus 7 ans, c'est 5 ans, et puis on fait de la proportionnelle, et puis il faut faire... Il y a un moment simplement où de fait, on ne peut plus parler. Donc on est là aussi dans un sujet...
La voix du père ne peut pas devenir...
Absolument, et d'ailleurs, je vois que Mignard est au fait de tous ces sujets. Non, mais voilà, c'est là aussi, il y a une contradiction entre satisfaire les demandes immédiates de cette pseudo-démocratie participative et de l'autre côté, se dire il faut retrouver une voie forte. Il y a un moment quand même où il va falloir peut-être aussi qu'on essaie de régler ce problème.
Je ne parlais pas, juste un additif, je ne parlais pas de voie forte, je parlais de voie collective.
Ce qui n'est pas effectivement la même chose.
Et c'est parce qu'elle est collective ou souvent qu'elle est forte.
Ça peut faire un brouhaha. Hein.
C'est vrai, mais ça peut aussi tenir un discours qui est un discours politique.
Inconscience et le politique, on le trouve où, Pierre Larouille, redites-le.
C'est vraiment, je pense qu'on le trouve sous le nom de Mellement Régnier, EP, enfin École pratique des hautes études de psychopathologie.
C'est une conférence qui a eu lieu en mars ou avril à Paris.
Passons à notre dernier sujet, qui ne déparera pas des autres, un 1er mai que j'ai intitulé un 1er mai sous le signe de la désunion syndicale. Alors on savait les syndicats français affaiblis, notamment par un nombre d'adhérents relativement faible. Si on regarde le taux de syndiqués en France et celui d'Allemagne, il y a un abysse. Une faiblesse également révélée dans le traditionnel défilé du 1er mai où les syndicats n'ont pas présenté un front uni malgré les appels à l'unité du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. La FSU, Solidaire et l'UNEF étaient présents et les autres centrales ne se sont pas déplacées. Alors certes, il est rare pour les 1er mai que les 5 centrales syndicales, rappelons-les CFDT, CGT, FOC, CFE, CGC et CFTC, défilent ensemble, mais bon, on avait cru comprendre que compte tenu du contexte social, quand même tendu, on vient de le rappeler, et des réformes contestées du gouvernement, une unité au moins de façade allait se reformer. Ça n'a pas été le cas, ce qui renforce aussi la position du président Macron sur cette question. Vous avez défilé, Jean-François ?
Oui, ça fait partie des rares rituels que je respecte plus facilement que Noël et la fête des mères. Donc je suis allé, bon.
C'est une fête pétainiste, c'est celle des mères et des pères.
Voilà, hein, et le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et pas la fête du travail. Hein, parce que Pétain avait, comme il savait le faire, Pétain et son équipe, largement détourné. Donc, oui, j'ai défilé à Toulouse, où on était, où c'était relativement nombreux et où il y avait effectivement oui, alors que je dis, je vois mon ami Pierre qui sourit.
Moi, c'est relativement.
Oui, relativement nombreux parce que je m'attendais à pire, mais je suis comme ça. Je suis plutôt pessimiste, moi, de ce point de vue-là.
Il faut remarquer, Mignard, je crois que c'est exceptionnel. En France, il y avait tous les partis de gauche, y compris le PS dans le défilé. Hein.
Enfin, ce qu'il en reste.
Mais bon. À Toulouse, ils étaient présents.
Ils étaient présents et. Le PS a disparu à beaucoup d'endroits, mais objectivement...
Dans le sud de la France, en Haute-Garonne, on peut dire qu'il est quand même assez présent.
Oui.
Il l'a toujours été, c'est une vieille base du PS quand même ici.
Mais oui, non, mais c'est peut-être important, ça donne des pistes, on pourrait reparler de tout ça.
Voilà, donc, ça a été un défilé du 1er mai qui était un défilé à la fois traditionnel et en même temps qui était marqué par la réalité qui était la réalité. Hein. C'était pas que du rituel, hein, avec les cheminots, avec les étudiants, des choses comme ça. Voilà. À remarquer effectivement que comparativement à d'autres endroits, il n'y a pas eu de casse à Toulouse. Parce que, je veux dire, le 1er mai, la façon dont le 1er a été rapporté, ça a été effectivement... la question, ce qui a pu se passer à Paris ou à d'autres endroits. Voilà. Alors, des unions syndicales, il semblerait que FO, au bénéfice, entre guillemets, d'un changement de direction, se pose des questions sur sa capacité à rejoindre les appels du pied de la CGT. Je ne sais pas ce que ça donne localement, mais c'est du moins nationalement ce qui se passe. Ce que je peux dire, moi, c'est que contrairement à... et même si on peut avoir un regard ou un discours très critique concernant les syndicats, je pense que contrairement à ce qu'imagine... le pouvoir, le gouvernement, alors Macron et Affidé ou autre chose, hein, qui d'une certaine manière, effectivement, s'assoit sur ce qu'on appelle les partenaires sociaux, est en train de produire les effets qui sont les effets dont il va falloir qu'on fasse gaffe, y compris localement ici, comment ça se passe, qui sont les effets de la violence, c'est-à-dire quand on ne socialise pas les conflits, on a effectivement la violence. Et là, on est en train de partir dans une dérive qui est une dérive. Et ça, c'est la limite qui est la limite justement du discours qui est le discours pas collectif et pas co-construit. Et qui est celui de l'autorité. Quand on a une autorité qui est hautaine et qui produit de l'humiliation sociale, on a derrière effectivement des effets qui sont des effets de violence parce qu'on dépasse le conflit. Le conflit n'est pas assumé, il n'est pas travaillé, il n'est pas géré. À Toulouse, ça s'est bien passé. Voilà, jusqu'à Caen, j'espère que ça va continuer.
Pierre Larouille.
Oui, c'était un 1er mai bugué plus que mugué. Pour revenir à l'optimisme de Mignard, peut-être qu'il n'y avait pas de convergence, parce que dans le brouhaha, il n'y a pas forcément d'unité. Je crois qu'il n'y a pas de vision de sortie. Et alors, ce contexte m'a fait retourner. Alors, je quitte un peu les syndicats pour aller vers les partis, et notamment ceux de gauche. Et je m'intéressais à l'homme avec lequel j'ai commencé ma carrière professionnelle, Alain Savary. Et je me souvenais de 71, du congrès d'Épinay. Il venait de sortir un livre qui s'appelle « Pour un nouveau parti socialiste ». Et quand on voit le plan de ce livre et le travail qui est fait, je crois qu'on est dans une situation qui est exactement copie conforme aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui s'oppose à Épinay ? Je parle sous le contrôle de Mignard.
Il n'y était pas.
Mais Canal et Bonnefeuille.
Oui,
en fait, il s'oppose l'idée de Savary qui est qu'est-ce que nous avons en commun ? Et on parle de fond, on parle de valeur. Et sans doute fait-il une erreur de timing parce que Mitterrand fait la même analyse, sauf que lui, il le dit en termes de pouvoir. Et évidemment que celui qui est capable de proposer le pouvoir entraîne tout le monde. Et je crois que ce qui pose problème aujourd'hui, le 1er mai, c'est la révélation que, visiblement, du pouvoir, la gauche là n'est pas totalement prête, hein, pour dire le moins, et que de l'autre côté, le programme n'a pas commencé à y travailler. Et je crois que finalement, ce 1er mai révèle qu'il y a plein de choses. Il y a un émiettement d'effets épars qui pourraient se cumuler sur ce qui va se passer samedi, hein, la fête à Macron. Mais voilà, tout ça n'est pas. On ne s'est pas positionné sur ce sujet. C'est est-ce qu'on se reparle pour savoir ce qu'on a en commun ? Ou est-ce qu'on est déjà dans une nouvelle stratégie de prise de pouvoir ? Alors effectivement, le blitzkrieg de Macron, visiblement, suscite des tentations. J'ai vu que Delphine Bateau prenait la tête de Génération Écologie, Benoît Hamon de son côté, enfin chacun, il va de sa tentative. Donc voilà, j'ai l'impression que ce 1er mai, il est révélateur de ce sujet qui n'est pas tranché, qui devrait l'être assez rapidement.
Bien, pour finir, tiens, je vous propose une devinette. Je vous lis quelque chose, un texte. Bref, vous me dites de qui il est. Absolument, oui, mais donc je suis un assidu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Allez, vous avez 20 secondes, perplexité dans le studio.
Parce qu'il y a plein de gens... Rocard aurait pu dire ça, mais c'est pas lui.
Victor Hugo aurait pu dire ça, mais c'est pas lui. Eh bien voilà, c'est Jean-François Mignard qui a gagné. C'était Victor Hugo.
C'est normal.
À l'Assemblée.
Tu commences à l'embrasser de cette alliance.
Le 9 juillet 1849. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant nous avons gagnant, donc c'est bien. Passons à notre avant-dernière rubrique, Le Ça va mieux, que je vais ouvrir à la demande générale. J'en ai deux. Tiens, on a toujours du mal à en trouver, mais j'en ai deux. Donc d'abord, c'est la fin d'un mouvement terroriste et il faut toujours se... Ah non, Jean-François voulait en parler. Allez, Jean-François, vous en parlerez, je vous le laisse. Alors moi, je vais venir sur un autre sujet qui peut paraître plus léger à côté de celui-là, mais qui me semble très important, c'est l'interdiction par l'Union européenne des trois pesticides néonicotinoïdes qui a été voté le 27 avril, qui est une victoire pour les apiculteurs, qui le réclamaient depuis longtemps. Il y a une surmortalité des abeilles absolument inquiétante, affolante, mais il ne faut pas s'en arrêter là, le combat continue. Alors justement, Jean-François Mignard.
Ah oui, là, c'était terrible. J'ai toujours du mal, mais c'est mon côté, l'optimisme, la raison, est détruit par le pessimisme, la volonté, mais l'inverse. Le ça va mieux, c'est effectivement le fait que l'ETA va, parce qu'elle ne l'a pas fait, mais mon petit doigt me dit qu'elle va le faire dans les heures qui viennent, annoncer sa dissolution, qui est la dissolution la plus complète. Je trouve que c'est à la fois, ça va aller mieux pour les Basques, même si l'ETA n'était plus... mais ça va assainir. Et je trouve que ça va mieux aussi parce que c'est un marqueur de la société civile qui est capable de, à un moment donné, faire la paix. Dieu sait si c'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Hein.
On ne fait plus l'amour, mais on peut arrêter de faire la guerre.
Y compris malgré un certain nombre de représentants de l'État qui, quand je dis l'État, c'est pas du tout un jeu de mots, mais là on a quand même un cheminement qui est un cheminement qui est construit avec alors peut-être que ça dit rien pour les gens mais pour les Basques qui ont connu dans les années 70 le quotidien, est-ce que c'était que l'État, le TA, c'est quand même ça va mieux.
Voilà. Ça va mieux, mais il a fallu quand même 60 ans, et on pourrait dire tout ça pour ça, parce qu'ils n'ont jamais rien obtenu de ce qu'ils ont demandé. Ils avaient démarré sous Franco, ils n'ont pas fait trop de dégâts sous Franco, ils ont entendu après que peut-être la démocratie s'installe pour les corner durablement. C'est un peu pitoyable.
Oui, le bilan qu'ils tirent même d'ailleurs... Et celui-là, quand le texte qui est paru et le texte qui va paraître dit ça aussi.
Pierre Larouille.
Ça va mieux, il y a une bonne nouvelle pour les seniors.
Ah ben, ça nous réjouit, parce que sur les quatre du studio, il y en a trois. Oui.
On a découvert, donc pour le 1er mai, grâce à Jean-Luc Mélenchon, qu'on pouvait devenir ambidextre. Dans la dernière partie de sa vie, puisque j'ai vu que l'extrême gauche et l'extrême droite étaient vraiment totalement comparables chez lui.
Oui, alors je ne sais pas si ça va mieux pour Mélenchon, mais bon, on va dire qu'il est quand même assez souvent et de plus en plus déconnant, pour être clair et direct. Allez, dernière séquence, le conseil culturel qui commence, Jean-François.
Allez, le 17 mai 2018, à la Dynamo, qui est une salle de spectacle qui est à la station au bout de la ligne B du métro à Toulouse, les 10 ans del Comunero, qui est un groupe de jeunes qui reprend des vieilles chansons qui, de mon point de vue, parleront à pas mal de gens et qui font écho avec l'histoire de Toulouse. C'est toute la communauté, une partie de la communauté espagnole là, qui va se retrouver.
Pierre Larouille.
Une pensée un peu triste et émue. Je suis en train de lire le remarquable bouquin de Lançon, Le Lambeau. C'est dur. C'est fort, et puis c'est un clin d'œil à l'ami Bernard, l'ami de 45 ans, et je postais l'autre jour sur Facebook une mémoire d'un petit dialogue qu'on avait eu sur Mediapart à partir sur l'économie cohésive. Voilà, il nous manque, je pense à lui, et ce livre, hélas, le rappelle de manière excessivement cruelle.
Et l'ami Bernard étant bien sûr Bernard Maris, vous l'aviez tous compris, à quel on pense assez souvent d'ailleurs, il faut bien dire ce qui est. Il nous manque aussi, oui. Alors moi, je m'y prends assez tôt, mais avec ces semaines un peu tronquées par des ponts, il vaut mieux prendre ses précautions. Le jeudi 24 mai 2018, il y aura dans cette maison, c'est-à-dire à l'Hostal d'Occitanie, qui nous héberge et d'où nous émettons, il y aura une veillée musicale et politique et poétique, ce ne sera pas politique, mais poétique pour une fois, à la salle Antonin Perbox. Et il y aura des poésies et des chansons qui seront occitanes et persanes. Alors il y aura Primael Despax qui va chanter et jouer des musiques occitanes. Et il y aura Madigé Nouri, j'espère que je n'ai pas trop écorné son nom, qui nous récitera de la poésie persane. Bien sûr, l'entrée est libre. Je vous le rappellerai d'ici là. Ça s'appelle Poésie d'amour ou Poésie à d'amour. Ça dépend comment on se place. Voilà, Maison d'Occitanie, jeudi 24 mai 2018, à 19h30 et jusqu'à 21h30. Ce n'est pas une veillée très tardive, mais je crois que ce sera un bon moment. Voilà, et bien, soyez-y tous. Vous serez les bienvenus dans cette maison. Merci Jean-François, merci Pierre. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Jean-Louis Arzac. Vous pourrez bien sûr la retrouver ainsi que toutes les autres sur le site internet d'Esprit Occitanie. Vous retrouverez tous les podcasts des émissions et nous nous retrouverons, si tout va bien, mais tout ira bien, le mercredi en 15 pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Belle soirée à toutes et à tous.